Bon, notre invité.
Yes.
Gabriel Giguère, analyste à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Giguère, vous êtes salué.
Bonjour.
Compteur d'eau. Je sais qu'on va aborder plein de sujets là, avec vous. Compteur d'eau, vous avez vu l'histoire hier. Il y a une espèce de regroupement là, de gens très neutres, là, des promoteurs, des urbanistes, des gens qui sont qui également des firmes d'ingénierie là, qui disent qu'au Québec, ça va nous prendre des compteurs d'eau éventuellement. L'argent, on ne sait pas ce qu'elle va. On ne sait pas où les villes dépensent leur argent, mais clairement, du côté des tuyaux en dessous pour l'eau potable, ça n'a pas été là, là, les dernières années. Là, on dit qu'il y a un déficit incroyable. Qu'est-ce qu'on doit décoder de ça? C'est qu'encore le contribuable qui va payer?
Bien, c'est sûr que c'est particulièrement alarmant, là, la situation du déficit de maintien d'actifs pour l'eau, parce qu'on le sait, on utilise de l'eau pratiquement chaque jour. Là, donc, il va falloir s'assurer d'avoir des bonnes infrastructures en eau. Puis ça s'inscrit aussi dans une tendance plus large, je pense, de l'entretien des infrastructures publiques au Québec, où on l'a vu également avec le gouvernement du Québec, on a priorisé pendant des décennies la bonification, donc la construction de nouvelles infrastructures plutôt que le maintien d'actifs.
Ouais.
Puis comme c'est construit pas mal tout en même temps, ben ça pète pas mal tout en même temps. Alors ça, c'est le premier constat. Maintenant, s'il y a des maires et mairesses qui nous indiquent qu'on veut avoir un compteur d'eau dans les municipalités pour permettre d'avoir une dynamique d'utilisateur-payeur, soyons extrêmement clairs, ça ne peut pas s'ajouter à la partie de l'argent qui est déjà aujourd'hui utilisée dans les fonds liés notamment à la taxe foncière. Autrement dit, ce que j'essaie de dire ici, c'est si on décide de mettre des compteurs d'eau, ben, parallèlement, il faut réduire le montant de la taxe foncière qui est liée à la gestion des eaux, justement. Sans quoi, qu'est-ce que ça va venir?
Ben, c'est de la surtaxe, là, c'est une surtaxation.
Voilà. On rajoute encore une fois des taxes sur le consommateur. Maintenant, j'ai bien hâte de voir le maire ou la mairesse qui va nous dire, d'accord, on va dans une dynamique utilisateur-payeur, mais on va réduire la pression sur les taxes foncières qui est liée à la gestion des eaux. Alors là, c'est évidemment une autre chose. Mais dans ce rapport-là d'hier, un des éléments que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la question des normes, des standards où on dit, ben attendez un petit peu, là, Québec rajoute des normes, ça coûte très cher et il y a un impact. Puis pas plus tard qu'en décembre 2025, puis c'est assez rare que je vais citer l'UMQ, mais en la matière, l'UMQ, à l'Union des municipalités du Québec, avait mandaté Raymond Chabot pour faire justement une analyse de l'impact de la hausse des prix pour plusieurs éléments d'infrastructure publique municipale, notamment les aqueducs. Puis ce qu'on voyait, c'est qu'environ 40 % de la hausse des coûts entre 2015 et 2025 était liée à la réglementation provinciale. Donc là, tu dis, attends un petit peu, là. On change pas nos infrastructures qui commencent à péter parce que ça coûte trop cher, mais en parallèle à ça, on a un gouvernement provincial qui artificialise en bonne partie pas que cette hausse de prix. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un travail d'introspection de la part du gouvernement provincial pour s'assurer de réduire la pression haussière des réglementations qui ont été ajoutées sur le coût de remplacement des infrastructures essentielles au Québec, comme les aqueducs.
Mais ça, on sait que depuis 2015, la réglementation change. Pourquoi les villes ne se sont pas adaptées aux nouvelles réglementations?
Ben, c'est une bonne question. D'abord, la première des choses, c'est que est-ce que la réglementation est plus lourde à s'adapter? Parce que quand on rajoute la réglementation, ben, à un moment donné, il faut embaucher plus d'avocats. Est-ce qu'il faut également embaucher plus d'ingénieurs?
Ouais.
Donc, c'est un fardeau qui s'ajoute à la réglementation. Et ça, ben, évidemment, à un moment donné, ben, ça coûte cher, puis c'est le contribuable qui paye. Alors, effectivement, peut-être que les municipalités ont un travail à faire là, pour s'adapter, mais c'est sûr que si le gouvernement est toujours de plus en plus sévère avec sa réglementation, ça transparaît sur la facture, et c'est ce qu'on voit avec cette analyse-là. Alors, bien hâte de voir si les maires et mairesses vont décider de réduire la pression fiscale. On le sait très bien, là, ils vont simplement nous dire qu'on va payer, sauf qu'on n'aura pas de baisse de pression sur la taxe foncière. Fait en sorte qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est encore vous autres, c'est encore moi qui vont payer davantage aux municipalités. Puis ça, ben, il n'y aura certainement pas de pause de Québec ou du fédéral pour nous autres. Au final, ça va être encore le contribuable qui va payer ouais. davantage.
Et on a vu des municipalités dans les dernières années investir dans des champs de compétences qui n'étaient pas les leurs. Là. On veut jouer à tout. On veut devenir des petits gouvernements, mais la mission de base d'une municipalité, c'est gérer notamment les égouts, les vidanges, les services de proximité avec le citoyen. Et là, ben, on est parti sur des histoires de pistes cyclables, notamment, je regarde Montréal, là, c'est 800 millions d'investissements dans les dernières années des pistes cyclables. Est-ce qu'on aurait pu mettre cet argent-là à bonne place? Soit les égouts, les tuyaux, les pertes d'eau potable aussi dans le réseau?
Mais tu as tellement raison. Quand on regarde ce qui s'est passé, on a l'impression que, pour reprendre peut-être une fable de Jean de La Fontaine, là, c'est les municipalités, c'est des grenouilles qui se prennent pour des bœufs. Tu sais, puis à un moment donné, ça explose parce qu'on n'a plus l'argent pour s'occuper de nos, de notre mandat clair. On essaie d'aller dans l'environnement, dans le logement. Là, on veut tout faire en matière de pour les municipalités. Mais la réalité, c'est de commencer à mettre des pistes cyclables, c'est de commencer à nous expliquer que ça prend maintenant des parcs éponges. Parce que les parcs normaux, c'est pas correct pour les enfants, puis c'est pas correct pour la pluie. Puis là, pour les changements climatiques, il faut changer ça. C'est parce qu'à un moment donné, ça coûte plus cher, puis cet argent-là n'est pas investi là où on doit l'investir, notamment l'aqueduc. Tu sais, s'il y a bien une chose de base, là, ramasser les poubelles, s'assurer qu'on a des routes municipales qui sont respectables, puis un aqueduc qui fonctionne pour boire l'eau du robinet. Tu sais, on revient à la base, là, avant de nous expliquer qu'il va falloir avoir un type de parc puis des pistes cyclables partout, malheureusement. La tendance municipale depuis novembre 2021... elle est complètement partie à gauche. Ils nous expliquent concrètement qu'ils ont toujours plus de choses à régler. Puis la deuxième chose qui suit très rapidement après nous expliquer qu'on s'occupe de tout dans les municipalités, c'est qu'on a besoin de plus d'argent du Québec. Donc, par extension, on a besoin de plus d'argent des contribuables. Puis ça, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on nous laisse respirer un petit peu.
Ouais, dans le Devoir de ce matin, le Québec a le choix entre l'austérité ou une hausse d'impôts. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. C'est notamment une entrevue avec Emna Braham, PDG de l'Institut du Québec et co-autrice d'un rapport qui dit que le Québec est à la croisée des chemins. Et clairement, là-dedans, ce qu'on nous laisse entendre, c'est que l'austérité, c'est peut-être pas ça où on s'en va au Québec. On va avoir des hausses d'impôts avant. Là. C'est clairement ce que je décode. Là. On semble pas vouloir compresser des dépenses, mais plutôt en rajouter et aller chercher davantage d'argent dans les poches des citoyens. Est-ce que c'est ça qu'on décode? Ou c'est encore là... C'est bon, là, on vit dans un monde de licornes.
Mais c'est assez clair que la trajectoire des finances publiques du Québec est mauvaise. On le sait, là, le ministre des Finances, Éric Girard, a fait une mauvaise job, endetté lourdement et a présenté encore une fois un lourd déficit de 8,6 milliards de dollars pour l'année qui s'entame. Donc, une fois que ça s'est dit, il y a un sondage qui a été demandé aux Québécois exactement dans cette même veine-là, en début mars, devant la trajectoire très mauvaise, là, soyons clairs, des finances publiques du Québec.
Ouais.
Est-ce que vous voulez augmenter les impôts ou vous voulez réduire le panier de services? 61% du monde ont répondu, nous autres, on veut réduire le panier de services. On est pressé comme des citrons, là. On peut plus commencer à augmenter les impôts. Fait qu'une fois que ça c'est dit, quand on demande aux Québécois, on ne veut pas augmenter les impôts, on veut moins de services. Puis ça, mais plus fondamentalement, et j'espère qu'il va y avoir cette réflexion-là au sein de la campagne électorale, c'est l'occasion en 2026 de l'avoir, là, cette réflexion-là, de dire, est-ce qu'on a encore les moyens pour cet État-providence-là? La réponse est très clairement non. Puis ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en réduisant les programmes, vous réduisez la quantité de fonctionnaires qui sont nécessaires pour administrer les programmes. Il y a des programmes qui vont être difficiles à abolir, là. Potentiellement, la question des CPE, pour ne prendre qu'un exemple, est-ce que c'est possible d'aller de l'avant et de réduire ça? C'est des centaines et des centaines de millions de plus dans les coffres de l'État. Et donc, on réduit le déficit, on réduit la nécessité d'augmenter les impôts et on laisse les gens respirer, les contribuables respirer. Il va falloir avoir cette discussion-là, mais on a tout plein de groupes de pression qui nous expliquent qu'on a trois choix au Québec. On augmente les impôts, on augmente les impôts, on augmente les impôts.
Ouais.
C'est pas vrai. On peut avoir une réflexion plus intéressante et plus intelligente également pour les contribuables.
Ouais, ça sera à suivre. Cette campagne électorale-là sera très intéressante. Oui, quand on sonde les Québécois aussi, on leur demande est-ce que le Québec devrait produire ses propres... Bon, on parle de gaz naturel. D'aller faire de la prospection. Puis on l'avait fait, on s'en allait là à un moment donné. Et là, la CAQ nous avait promis justement le projet Saint-Laurent de François Legault, 2018. On va aller chercher notre gaz naturel sous nos pieds et on va le vendre pour avoir des revenus pour l'État. 2022, moratoire subi. On va à Davos. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est passé de quoi au gouvernement du Québec? Et là, est-ce que les Québécois semblent vouloir, eux, aller produire du gaz naturel, semblent vouloir aller vers là? Est-ce qu'on va aller là? Il semble avoir un lobby très puissant pour bloquer ça. Hein?
Bien, on l'a vu de toute façon avec GNL Québec, je pense, en 2021, comment le BAP a été noyauté par 50 environnementalistes, donc 300 organisations environnementales qui sont venues noyauter le BAP pour justement que le projet tombe. Donc, effectivement, il y a beaucoup de lobbyisme anti-énergie, mais la réalité aujourd'hui, ça, on le voit depuis plus d'un an dans les sondages. En fait, on le voit depuis des années. Quand on demande aux Québécois, est-ce que vous êtes d'accord avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières ou vous préférez les importer comme aujourd'hui? Rapidement, il y a toujours une majorité de Québécois qui disent qu'ils sont en faveur. par rapport à ceux qui disent qu'ils sont en défaveur. Donc ça, c'est clair, là. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Maintenant, depuis un an, depuis l'arrivée notamment de Donald Trump au pouvoir, ce qu'on constate, là, c'est que non seulement il y a une majorité, mais ça augmente. Les gens se désattendent un peu, là. Aujourd'hui, oui, il y a la question de la transition énergétique, mais moi, je pense d'abord et avant tout qu'il y a la question de la sécurité énergétique. On veut s'assurer d'être un joueur qui permette d'approvisionner notamment nos alliés. On veut être un joueur qui s'enrichit, qui crée de la prospérité et du dynamisme économique. Parce que faut quand même se rappeler qu'en 2022, oui, il y avait en quelque sorte là, la lubie des batteries, puis là, tout devenait vert, puis là, on allait avoir, là, on allait être le hub de l'énergie, de l'hydrogène vert. Au final, on voit où ça nous a mené, mais plus fondamentalement, on avait également un conflit géopolitique en Europe, en Ukraine, qui est toujours là par ailleurs, et qui a eu d'importants bouleversements au niveau des marchés énergétiques. Et on revoit cette dynamique-là, en quelque sorte, avec le conflit en Iran. On comprend qu'on peut être un joueur, on peut approvisionner l'Europe, on peut approvisionner également l'Asie. On le voit déjà de toute façon avec le premier port terminal liquéfié. Dans l'Ouest, qui commence à approvisionner la Corée du Sud et le Japon depuis quelques mois.
Ici, il n'y a rien. On va chercher de la péréquation. On laisse l'argent filer à d'autres juridictions. Et on se demande pourquoi on n'a pas d'argent pour payer nos programmes sociaux.
Bien, là, ça, c'est... Il y a un double problème. Parce qu'aujourd'hui, on artificialise notre telle prospérité essentiellement en mettant des barrières justement au développement des ressources naturelles, notamment le gaz naturel liquéfié où on a plutôt le gaz naturel qu'on pourrait liquéfier. Bien entendu, on a des grandes réserves, la réserve Utica, et ça, malheureusement, ça vaut des milliards et des dizaines de milliards et on ne l'utilise pas. Mais il faut aussi se dire une chose qui m'a particulièrement déçu la semaine dernière. On a une motion de la part du Parti québécois et de Pascal Paradis de dire, en réaffirmant qu'on ne veut pas exploiter nos ressources naturelles qui pourraient devenir une réelle richesse pour les Québécois et les Québécoises. Et ce qu'on a vu, on se rappellera juste en avril 2022, quand la loi 21, et là, je ne parle pas de la loi sur la laïcité, la loi qui a interdit l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures au Québec, on avait c'est même pas une majorité, on avait une unanimité à l'Assemblée nationale. Tous les députés avaient voté pour la loi. Ce qu'on voit avec la motion de la semaine dernière, on a plusieurs députés qui avaient envie d'aller aux toilettes pendant le vote de la motion. Mais on a quand même vu qu'il y avait une immense majorité. Seuls 3 députés n'ont pas voté pour la motion. Et parmi ces députés-là, on avait Youri Chassin, bien entendu, mais également la nouvelle députée du Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette Vézina. Je suis content de voir qu'il y en a 3. C'est largement insuffisant. Est-ce que ça vient me dire? Parce qu'il faut se rappeler ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes. Les Québécois sont en majorité en faveur de l'exploitation des ressources naturelles au Québec. Puis on vient de dire qu'il y a 3 députés qui ont voté pour ce développement-là des gaz naturels.
Ça veut dire que le reste n'est pas... La députation actuellement à l'Assemblée nationale n'est pas au diapason avec ce que la société québécoise veut, là.
Absolument. J'ai rarement vu un enjeu sur lequel les députés sont aussi déconnectés de la population, là. C'est une déconnexion complète, là. C'est l'erreur 404 sur Internet, là. Ça ne fonctionne pas, malheureusement. On persiste dans cette approche-là qui, on le sait, on pourrait s'enrichir. On le sait qu'on pourrait à la fois exploiter notre gaz naturel, mais également avoir des terminales de port, plutôt des usines de liquéfaction, un peu comme il y a déjà dans l'Ouest, on aurait pu avoir avec le GNL Québec, comme on pourrait potentiellement, dans le futur, avoir avec Marinvest à Baie-Comeau, où on aurait pu à la fois exploiter notre gaz dans nos sous-sols, le liquéfier et l'exporter, en plus de l'utiliser ici. Donc ça aurait été génial, mais on n'a pas ça.
Et générer des milliards pour l'État québécois qui en a besoin, là. On est dans des déficits d'infrastructures, on cherche de l'argent partout. On va venir la chercher encore, on va appauvrir les Québécois dans les prochaines années, là.
Ben, c'est ça le problème. Puis en parallèle à ça, tu sais, regardons l'Alberta un instant. Ils ont déposé un budget qui, faut le dire, là, objectivement, était assez déficitaire, là. En début d'année, on se disait, ben, ça va pas bien la prochaine année, ils prévoient un 9 milliards de déficit. Il se passe quoi? C'est dommage parce que c'est pas lié à la saine gestion des finances publiques, mais c'est quand même de démontrer que là, eux autres, ils ont bien moins de taxes que nous, puis comme ils ont un secteur énergétique vigoureux, puis qu'ils peuvent justement capitaliser sur, malheureusement, il faut le dire, c'est la réalité, certaines crises, ils risquent d'avoir un tout petit déficit ou bien moins grand, parce que justement, ils sont capables de créer de la richesse avec leurs ressources naturelles, ce qui n'est pas le cas du Québec. Donc ça, malheureusement, ça serait intéressant d'avoir ce dynamisme économique-là et d'avoir également cette entrée de revenus pour le gouvernement, comme tu as très bien dit, pour s'assurer également de pouvoir payer et de couvrir nos dépenses, certains programmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça n'a pas l'air de changer avec la dernière motion et la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. C'est fort dommage, mais c'est la direction que le Québec est actuellement. On espère quand même qu'il va y avoir un débat là, au cours des prochains mois ou à tout le moins pendant la campagne électorale pour s'assurer que ce soit un sujet qui est rediscuté parce que le chapitre ne doit pas être fermé.
Ben, Christine Fréchette a voté contre la motion de la semaine dernière. Là, a voté contre les...
Mais elle disait vouloir analyser.
Ouais.
T'sais.
C'est ça. Mais est-ce qu'on doit lier... Là, c'est gros, là. Est-ce qu'on doit lier la péréquation aux ressources naturelles des provinces?
Ça me fait un peu mal de te répondre ça, mais je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est définitivement oui. C'est-à-dire qu'on peut ne pas exploiter nos ressources naturelles, mais c'est parce que la richesse, notamment albertaine, provient de là.
Ben, elle vient de là. Et puis le Manitoba, puis peut-être d'autres provinces autour aussi, là.
Mais c'est extrêmement simple. C'est même pas une question d'idéologie, là. T'sais, on regarde les chiffres. En 2024, il y avait 1 $ sur 4 d'exportés qui étaient liés au pétrole. Faut juste revenir à la base, pétrole et gaz, bien entendu.
Et c'est des ressources qui ne passent et reviendront pas, là. C'est-à-dire qu'en 2050, il y a un consensus où on va être pas mal carboneutre, je sais pas trop quoi, là. Toutes ces utilisations-là de ces énergies fossiles-là, ben il y en aura presque plus, là, 2050, 2060, qu'on nous dit, là.
Faut juste faire attention là-dessus, parce que je le comprends. C'est vrai que c'est dans l'espace public, mais quand on regarde des projections, puis je fais toujours attention avec les projections parce que ça peut changer, mais quand on regarde des projections avec les politiques actuelles, là, qui sont actuellement en place, le gaz naturel, par rapport à 2024, qui est l'année de référence, va augmenter de 30 % en 2050. Fait que de nous expliquer, comme on le fait souvent à partir de certains groupes environnementaux, non, ça sert à rien. Il n'y a pas de fameux business case. Il n'y a personne qui va vouloir en acheter. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est avant de commencer à parler de panneaux solaires puis d'éoliennes, si tu as de la misère à avoir de l'énergie de façon sécuritaire et d'assurer ta sécurité énergétique, c'est pas ça qui est important, là. C'est pas en train de m'expliquer que c'est la transition en 2050 si tu as de la difficulté à être sûr d'avoir de l'énergie pour faire rouler ton économie en 2035. Donc, la réalité est beaucoup plus et moins idéologique que ce qu'on voudrait nous laisser croire. Et la question du pétrole va également augmenter au courant des prochaines décennies en matière de demande. Évidemment, ça ne sera pas lié particulièrement au Canada, mais plutôt aux pays émergents, parce qu'eux autres aussi ont le droit de se développer. Hein. Leur PIB par habitant est beaucoup plus faible. Et on le sait, pour avoir une économie dynamique, ben, ça prend de l'énergie fiable.
Gabriel Giguère, toujours intéressant, de l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup. À la prochaine.
Un plaisir. À la prochaine.
Voilà. Bon, toute l'histoire du pétrole, du gaz.
Ben oui,
on veut pas
sait.
Aller là. On veut pas aller là parce qu'on se dit 2050, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'en 2050, il va y avoir plein de pays qui vont avoir besoin de gaz naturel.
Ben oui, puis ça va tout va coûter encore beaucoup plus cher. Je veux dire, nos services au Québec, à un moment donné, il va falloir les financer. Là.
Mais l'argent, on va venir la chercher où? C'est-tu 60 % de mon cash que je gagne que tu vas vouloir...
Pierre, si tu veux des services, il faut que tu contribues à la société.
C'est bon, c'est correct. J'ai entendu.
C'était sarcastique, tu comprends?
Ben oui, je sais, mais ça c'est la théorie. La pratique, c'est autre chose. Là.
Uh-huh.
La pratique, moi, c'est parce qu'il y a un point de non-retour. À un moment donné, trop d'impôts tue l'impôt.
Absolument.
Il y a des gens qui vont dire « moi, je m'en vais ». Il y a des compagnies qui vont dire « on quitte
ouais. ».
Il y a des citoyens qui vont commencer à travailler au noir de plus en plus. Donc là, tu gagnes pas.
Il faut faire le ménage.
En tout cas, regarde.
L'austérité.
On est là-dedans. Mmh. Oui, on est là-dedans. Voilà, après la pause, là, on va dégazer, mais taxe carbone.
Ah non.
Le food professeur va nous annoncer des histoires. On revient.
Et à un moment donné, les gens verront les vraies réponses. L'argent, là, est autour de vous.
Couture dans le mid. Radio X.